Bonsoir, le titre Facebook toujours malmené à New York après sa chute hier de presque 7%. Oui, l'affaire, elle ne s'est pas calmée. On voit plusieurs autorités européennes qui demandent des comptes à Mark Zuckerberg après l'utilisation de données émanant de plusieurs millions d'utilisateurs. Et bien, au profit d'une société ayant mèche donc avec une société liée à Donald Trump, à la campagne de Donald Trump. Oui, est-ce que le masque est en train de tomber sur Facebook et au-delà sur plusieurs GAFA? Est-ce qu'on est arrivé au bout d'un système? Est-ce qu'il faut reconstruire, mettre en place finalement eh bien, un nouveau modèle, peut-être plus éthique dans la collecte de data? Alors après l'engouement autour de Facebook, est-ce l'heure désormais de la défiance? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Affaire qui vous passionne, bien entendu. On en parle évidemment avec les meilleurs comme tous les soirs. Arnaud Ponce qui est avec nous, délégué général de la fondation Digital New Deal. Isabelle Bordry à la tête de Retency, qu'elle a fondé justement. Retency, spécialiste de l'analyse de données. Édouard Filias, fondateur de l'agence d'influence G, notamment très présent sur les réseaux sociaux. Frédéric Simotel, éditorialiste high-tech à BFM Business. Et puis l'avocat Adrien Badevant, associé dans le cabinet Alizias Partners, qui fait paraître l'empire des données, la grande histoire de cette collecte. Finalement aussi, comment se protéger, comment protéger l'individu et la collectivité des avancées technologiques. Il dit tout dans ce livre avec l'autre avocat, monsieur Maître Mignard. Alors, en préambule, hein, c'est vrai que cette affaire, on ne cesse d'en parler donc depuis, spécialement depuis hier, hein, depuis la chute du titre Facebook à New York. Hein. Est-ce qu'on peut parler d'affaires considérables, de gigantesques scandales? Un petit tour de table chacun en préambule. Tiens, Arnaud, s'il vous plaît.
Oui, c'est un grand scandale. En fait, Facebook et les GAFA en général sont en train de rentrer dans l'âge adulte et les problèmes d'adultes. C'est-à-dire que pendant longtemps, ils ne sont pas trop posés de questions. Et puis là, ils prennent des décisions importantes et ces décisions, elles deviennent politiques. Et du coup, on peut les retourner contre elles. Et c'est notamment ce qui est arrivé à Zuckerberg. En fait, il est tombé dans un piège politique. C'est-à-dire qu'en 2016, les conservateurs lui ont demandé de changer sa règle pour les trend topics sur Facebook. Vous savez, les trend topics, ce sont les informations qui remontent en priorité. Et là, ils avaient constaté, et c'était vrai, en partie, qu'il y avait trop de remontées d'avis de gens démocrates. Donc, il y a eu un lobbying très fort auprès de Zuckerberg, dans les médias, etc., en disant, ça devient un média gauchiste, etc. Et ils ont gagné cette partie-là. Zuckerberg a réagi en prenant une décision fondamentale, et il y a un avant et un après, c'est ça le scandale d'aujourd'hui, c'est qu'il a décidé que, en fait, ce serait plus l'intelligence humaine, donc les postes des gens qui seraient le critère, mais l'intelligence artificielle avec un algorithme. Et c'est lui qui déciderait des trend topics. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient prévu le coup en amont, les conservateurs, notamment avec la fameuse société dont on parle aujourd'hui,
Cambridge Analytica.
Cambridge Analytica. C'est qu'ils avaient prévu ceci, ils avaient des bots qui permettaient de remonter les résultats des conservateurs en tête des trend topics.
Bon, faudrait y revenir, mais j'aurais pas qu'on voilà, on en parlera, mais je veux pas qu'on rentre dans le détail. Est-ce qu'il y a ou pas un complot, Frédéric? Il y a un complot ou pas? Il est tombé dans un piège, Zuckerberg?
Je sais pas s'il est tombé dans un piège, mais on se rend compte que voilà, on vend pas de la même façon. Enfin, on ne vend pas. On n'exploite pas de la même façon des données pour vendre des baskets et pour vendre des films, pour vendre ce qu'on supposait de nos données utilisées par Facebook. Et quand on vient dans le domaine politique, avec tout ce qui peut être l'influence, on a vu l'histoire des fake news, là on voit ces histoires d'influence. Voilà, et ça, il y a ce côté, c'est vrai, âge adulte de la part de Facebook, hein, qui est travaillé sur, on le sait, ils ont un modèle publicitaire, mais ils ont un modèle de rentabiliser les données, et Dieu sait s'ils en ont avec tous les milliards et quelques de membres de Facebook. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, ces data, il y a des histoires de confidentialité, on reparlera de tout ce qu'ils avaient déjà mis en place, qui ont peut-être été contournés, même sans doute été contournés. Et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on se rend compte que les données, c'est pas uniquement pour vendre des pâtes et des baskets.
Ouais, on va rappeler quand même ce cabinet d'analyse basé à Londres, hein, Cambridge Analytica, qui travaillait pour la campagne électorale de Trump en 2016, qui a pu collecter donc les données émanant de les 50 millions d'utilisateurs de Facebook. sans leur consentement pour élaborer un logiciel permettant de prédire, d'influencer le vote des électeurs. 50 millions de profils d'utilisateurs, c'est à peu près un tiers de membres actifs de Facebook en Amérique du Nord. Alors, ce cabinet Cambridge Analytica précise que ces données n'ont pas été utilisées dans le cadre des services fournis à la campagne de Donald Trump, très bien, ni pour le Brexit d'ailleurs. Et au conseil d'administration de cette entreprise, on trouve Steve Bannon. Voilà, je rappelais juste les faits de ce qu'on sait, justement, on verra après ce qu'il en est. Qu'est-ce que ça traduit, cette affaire, Isabelle Bordry ?
Oui, moi, je pense qu'il y a une espèce d'éthique générale. C'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que,
avec Frédéric Simotel,
que l'on traite de la basket, des tendances de la mode, ou alors des tendances politiques, même si c'est des sujets de société qui touchent peut-être un petit peu plus les gens. On se doit d'avoir une éthique sur la gestion de la donnée personnelle. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, en utilisant une sorte de cheval de Troie, en fait, dans les conditions générales de Facebook, une société a, parce qu'elle avait le droit et l'autorisation de Facebook, a mis en place des quiz. Et pas mal de gens ont accepté de répondre à ces quiz, puisque effectivement sur Facebook, il y a énormément de quiz, on vous demande votre avis, les gens adorent donner leur avis. Et donc, ils sont rentrés par ce cheval de Troie. Ils ont même proposé une rémunération aux gens qui répondaient à ces quiz, pour non seulement avoir et accéder aux données personnelles de ces 250 000 personnes qui ont répondu au quiz, mais à tous les amis de ces 250 000 personnes. Ce qui était possible dans les conditions générales d'utilisation que personne ne lit, puisqu'elles sont sur 4 pages, 5 pages, etc. Donc il y a eu là, je trouve, de la part de Facebook, qui dit aujourd'hui qu'ils ne sont pas responsables, puisque c'était effectivement dans les CGV, une problématique d'éthique sur la finalité et sur l'explication. Il y a une dichotomie entre ce que l'utilisateur était prêt à donner à un instant T et la réelle utilisation qui a été faite de cette donnée. Et je pense que l'on traite de sujets politiques ou que l'on traite de commercialisation de chaussures de tennis, le problème est absolument le même vis-à-vis du citoyen.
Ouais, quelles que soient les données,
je pense qu'il y a une éthique. Je pense qu'il y a une éthique à avoir, quelle que soit la publicité que vous valorisez sur vos pages.
Édouard Filias, Jean.
Ben moi, je suis soulagé parce que j'avais appelé Cambridge Analytica pendant l'élection présidentielle pour les faire travailler pour le candidat qui m'employait.
En France ?
En France.
D'accord.
Et il m'avait répondu avec une très très grande opacité. Et on avait posé la question de savoir si les fichiers qu'on allait utiliser pour cibler les segments de la population électorale étaient sourcés, enfin étaient validés légalement, si les personnes qui avaient consenti ces données étaient d'accord pour leur utilisation. Parce qu'en politique, aujourd'hui, la CNIL veille et vous pouvez avoir des suites très sérieuses si vous ne vous conformez pas. Et ils avaient été extrêmement évasifs sur ces sujets-là. La relation d'ailleurs avait été avec eux extrêmement chaotique, mais donnant le sentiment d'une société qui, au fin de compte, n'était pas sérieuse, n'était pas organisée comme un business normal dans la diffusion et l'édition de solutions de ciblage.
Donc vous ne les avez pas pris ?
Je ne les ai pas pris. Et je pense que d'abord, on n'aurait pas pu les prendre parce qu'il y avait ce problème avec les datas, mais je ne suis même pas certain qu'ils étaient organisés pour qu'on travaille avec eux. Et je crois que là, on vit un moment intéressant pour Facebook, pour répondre à votre question sur le moment Facebook. Dans GTA, qui est le jeu vidéo le plus vendu au monde, et il y a une parodie de Facebook, ça s'appelle Life Invader. Et au début du jeu, vous devez votre personnage détruit les bureaux de Life Invader. Parce que Facebook, c'est plus cool. Facebook, dans la culture populaire, c'est en train de devenir un objet cool, sympathique, à pas cool. Facebook fait le mal. Zuckerberg envisage de se présenter peut-être à l'élection présidentielle. En tout cas, ça semble être son ambition. Mais quelque part, aujourd'hui, il y a un vrai problème avec... Il y a une espèce de moment Uber. Vous savez, comme ce moment où tout le monde a trouvé Uber formidable. Ouais. Dans l'opinion, il y a un décrochage.
Il y a de la défiance, ouais.
Et on s'interroge. Mais les chauffeurs, ils sont vraiment payés. Ouais. Et ils ont une assurance. Ouais. Et ben là, on est en train de vivre ce moment Facebook. Donc la crise aujourd'hui, on pourra revenir sur ses origines techniques, les datas, etc. Mais je pense qu'elle révèle ça.
Quelle est la défense de Facebook aussi? Qu'est-ce que ça fait Facebook? Oui, il y a un moment Facebook qu'on est en train de vivre. Adrien Badevant, vous qui sortez l'Empire des données.
C'est une affaire qui est considérable, mais c'est pas la première du style. Dans les années 2014, il y avait déjà des affaires qui concernaient Facebook. Il y avait un étudiant, par exemple, Max Schrems, autrichien, qui avait vu, en demandant à Facebook de lui communiquer toutes les données lui concernant, qu'il avait 1200 pages PDF de certaines données dont il avait demandé la suppression. Et en fait, ce dont il s'agit ici, c'est de voir l'impact des plateformes et des algorithmes sur notre fonctionnement démocratique, parce que c'est des questions de pouvoir, on voit bien, c'est des questions entre États, entre plateformes, et entre nous, les citoyens qui sommes aussi utilisateurs, comment on va avoir notre mot à dire. Et malheureusement, on doit attendre qu'il y ait des scandales pour réagir. Alors que ce dont il s'agit ici, c'est vraiment une question aussi de sensibilisation de tous. Et je suis d'accord sur un aspect complètement éthique, en fait.
Oui, on verra. Oui, pardon, Isabelle Bordry.
Je pense qu'il y a une grande différence. Les États-Unis est une grande démocratie. Et je trouve que finalement, ce qui s'est passé hier montre qu'il y a quand même des ressorts, le ressort de la justice, les ressorts du citoyen qui, à un moment donné, en ayant conscience de ce qui se passe, sanctionne. Et la sanction hier de Facebook est énorme. C'est quand même 35 milliards. Donc c'est bien plus.
Ils ont perdu 11% en une semaine.
Et c'est bien plus que les amendes que compte mettre le RGPD. Tout donc juste. C'est ça qui est intéressant. Mais dans la perception
général, la
et dans la culture.
Des données européennes, le 23 mai. Oui.
Qui va bientôt arriver. Mais ce qui est intéressant, et c'était votre réaction, c'est de dire, je pense que les Européens, d'une manière générale, ont une conscience beaucoup plus forte des enjeux de liberté publique que ce que l'on peut avoir aux États-Unis. Alors, pourquoi ? Parce que peut-être qu'on a des organismes comme la CNIL qui sont fortement présents, qui ont légiféré, qui sont à chaque fois des garde-fous. Et sur toute cette notion-là, je pense que les Français, les Allemands aussi, qui sont très stricts sur qu'est-ce qu'on a le droit de stocker, comment, les listes, etc., sont très vigilants et beaucoup plus qu'aux États-Unis, où on est plus dans un système où on se dit finalement, le marché, à un moment donné, va s'autoréguler et on n'attend pas en amont d'avoir les garde-fous nécessaires.
On reviendra sur le RGPD. Juste ce qu'il faut dire, Frédéric Simotel, où en sont aujourd'hui les enquêtes. Oui, oui. On voit aujourd'hui l'étau qui se resserre donc autour de Facebook et autour de Zuckerberg à tel point qu'il est convoqué donc devant des instances, et le Parlement britannique, le Parlement européen.
Et il faut quand même rappeler que Zuckerberg, en 2011, Facebook a signé avec la FTC américaine, donc la
DGCCRF américaine.
Oui, voilà, droit à la consommation, sur le fait que Facebook s'engageait à faire un audit tous les deux ans, indépendant, sur l'ensemble de la confidentialité de ces données. Et ça commence un petit peu à craindre, parce que là les amendes sont très très fortes et tous les deux ans, ça veut dire 2011, 2013, 2015 et 2017. Donc faut voir où ils en sont de cet audit, s'il a été réalisé, s'il a été bien indépendant, si Facebook s'y est conformé aux résultats de cet audit. Donc là il y a déjà une enquête qui démarre autour de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, ben il y a plusieurs. Pourquoi les Britanniques s'en inquiètent? Parce que la société Cambridge Analytica
est basée à Londres.
À Londres. Il y a le procureur général du Massachusetts aussi qui commence à sortir aussi du bois en disant mais on veut un peu plus d'explications. Et puis globalement, il y a une opinion publique qui est en train, tout doucement, c'est des petits signaux faibles, qui est en train d'évoluer aux États-Unis autour de les données personnelles. On le sent, il y a plusieurs articles qui sortent, mais depuis plusieurs mois, de dire tiens, la Silicon Valley, c'est de moins en moins cool. Alors on parlait des loyers, on parlait des embouteillages, on parlait de la pollution, mais on parlait aussi de ces histoires autour des données personnelles.
Les algorithmes.
Et,
hein,
ouais. Et justement, et ce que je voulais dire tout à l'heure sur les données, oui, il y a l'éthique, mais c'est vrai que sur des données de consommation, les Américains étaient moins regardants. Ils s'inquiétaient plus des données politiques. Là, aujourd'hui, voilà, on arrive à ce virage. Mais en tout cas, il est poursuivi. Enfin, il y a même Edward Snowden qui a sorti sa petite phrase en disant on est sur un réseau de surveillance. Mais voilà, il y a des enquêtes qui se mettent en place. Il y a cette histoire avec la FTC qui risque de.
Que savait Facebook? Est-ce que Facebook était au courant? Oui ou non? C'est une question. Oui.
A priori, oui, ils étaient au courant. En plus, lorsqu'ils se sont très mal débrouillés, lorsqu'ils ont senti que l'affaire était en train de monter là il y a quelques jours, la façon dont ils ont géré tout ça, ils ont fermé le compte Facebook, ils ont pas essayé d'étouffer l'affaire, mais ils ont essayé d'aller un peu vite dans la communication. Et puis, et s'ils n'étaient pas au courant, bah ça y est, on est dans cette histoire de maturité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le contrôle sur les données, n'ont pas le contrôle sur les applications. Et alors là, ça devient carrément inquiétant. Il faut les mettre sous tutelle.
Parce qu'il y a apparemment, on parle de Cambridge Analytica, mais apparemment il y aurait des dizaines de compagnies qui seraient concernées de la même façon. C'est-à-dire que Facebook peut vérifier toutes les applications qui s'appuient sur les données qu'il génère ou pas, Arnaud Ponce.
Vous savez, Zuckerberg a dit je dois mettre en ordre Facebook, c'est-à-dire c'est un mea culpa. Effectivement, il doit davantage vérifier. Et là où il y a un scandale aujourd'hui, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a un scandale sur les datas. Mais d'habitude, c'est sur des données commerciales. Là, c'était à des fins politiques. C'est ça le vrai sujet. Et en fait, c'est là le grand scandale, c'est que quand je parlais tout à l'heure de complot, c'était pas un complot, mais c'est que il était pris dans un piège, dans le sens où pour la première fois, ce sont des données politiques. Quand on disait tout à l'heure que il faisait la publicité de la même manière sur un contenu qui commercial ou politique, c'est ça le problème. Il est devenu le plus grand média du monde. et ils commencent à avoir des problèmes
de voulez qu'on fasse la différence de Isabelle. Isabelle, elle dit bah finalement il faut de l'éthique sur toutes les données, que ça soit de la qu'on s'intéresse au squash ou qu'on vote Trump. Vous vous dites il faut quand même faire une différence entre ces données.
Et moi je pense qu'il faut qualifier les données et de toute façon c'est un média, vous êtes un média, vous savez ce que c'est. Par exemple, vous les journalistes, il y a une frontière infranchissable avec la régie publicitaire.
Oui.
C'est dans la nature même d'un média. Oui. Et aujourd'hui sur Facebook, il n'y a pas cette frontière-là. C'est compliqué. C'est-à-dire que les contenus aujourd'hui, que ce soit commerciaux ou politiques, on peut leur contextualiser une publicité sans avoir à rendre compte. Il y a un problème de toute façon dans le business model.
Adrien Badevant et Edouard Filias.
Ce qui est compliqué, on parle beaucoup de vie privée, mais ce n'est pas la seule valeur sociale qui doit être protégée parce qu'on confond souvent vie privée et de protection des données personnelles. Il y a déjà deux protections qui sont différentes. Et là, il y a un autre débat qui est celui du profilage comportemental. C'est-à-dire que toutes ces personnes se voient mises dans des catégories
des cases.
Ils ont une prédisposition pour voter plus pour un candidat, Bernie Sanders, qu'un autre, etc. Mais premièrement, ils ne savent pas qu'il y a des données qui sont collectées sur eux. Ils ne savent pas qu'il y a des profils qui sont... Donc, ils n'ont pas l'information. Et il y a un droit qui est basique. Il y a déjà le consentement. On donne un consentement. Là, en l'occurrence, c'était pour faire des enquêtes. Mais en fait, c'était afin de profilage comportemental. On doit avoir un droit de s'y opposer. Et donc, c'est une collecte qui est complètement déloyale. Et c'est là où ça touche le pouvoir et la façon dont fonctionne la démocratie. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir véritablement des répercussions dans une période qui est complètement critique, qui est l'élection présidentielle, en pleine campagne électorale. Et ça montre bien aussi l'approche qui est très différente, peut-être qu'on y reviendra, entre les États-Unis et l'Europe sur les questions de data.
Alors, collègue déloyal, nous dit Adrien Badevant, Edouard Filias, quand même, c'est pas vous, je vais parler de naïveté. Il n'y a pas un petit peu de naïveté de croire que lorsqu'on va sur Facebook, Twitter, Google ou je ne sais où, il n'y a pas quelqu'un derrière qui va collecter, en effet, qu'on est blanc, qu'on vote Trump, qu'on aime le squash, et puis, j'en sais rien, le cassoulet, je ne sais pas encore. Edouard, quand même, on le sait, alors, quand on y va.
Je ne vais pas brûler ce que j'ai adoré. Facebook est un média social formidable,
oui,
qui a changé de façon incontestable la façon dont on communique, dont on interagit, pour je pense, le plus grand bien. Et il faut quand même être précis dans cette crise. Là, on parle de faits antérieurs à 2013, c'est-à-dire antérieurs à la fondation de Cambridge Analytica, qui a été fondée grâce aux données captées abusivement sur Facebook. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook, à partir de 2011, a fermé son API. Donc, c'est quoi une API dans un réseau social? C'est une porte d'entrée pour aller requêter des données. Donc, c'est-à-dire que vous demandez accès à des profils en fonction de leur âge, de leur emplacement géographique, et vous obtenez une réponse. Alors, je peux vous le dire, puisque j'édite des logiciels de veille depuis 10 ans, que Facebook, avant 2011, c'était free lunch. Vous arriviez, vous alliez sur l'API et vous tiriez toutes les données que vous vouliez. On pouvait même les acheter en volume auprès d'un certain nombre de providers américains, dont certains ont fermé depuis. Aujourd'hui, LinkedIn et Facebook ne donnent plus accès à leurs données au business comme le mien, au business comme les nôtres, à qui sommes dans le marketing digital, pour des raisons éthiques. Il y a eu une évolution quand même dans la policy. C'est pas le cas de Twitter. On a encore le droit de s'abonner pour recevoir ce qu'ils appellent le firehose, c'est-à-dire l'ensemble des tweets publiés en temps réel par les utilisateurs. Donc là, on est en train de parler d'une expérience de marketing comportemental qui a eu lieu avant 2013, je ne sais pas exactement sur quelle période, mais c'était 2009-2010, qui vise à comprendre si on peut modéliser l'opinion d'une personne, son comportement, à partir de points de like sur un certain nombre de contenus.
Pas d'accord.
Je ne suis pas exactement d'accord quand on dit que c'est jusqu'à 2011, parce que dans le cas de l'espèce, il y avait jusqu'à 2015 la possibilité pour une application tierce, en l'occurrence c'était Cambridge Analytica, de demander à 27 000 utilisateurs de Facebook d'avoir accès à leurs données, et il n'y avait aucune solution technologique dans Facebook qui empêchait Cambridge Analytica d'avoir accès aux informations des amis de ces individus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas ce qu'on appelle, avec le règlement européen, le privacy by design, c'est-à-dire que Facebook, par défaut et dès la conception, n'a pas développé une infrastructure technologique qui permettait une collecte des données qui soit proportionnée.
Oui, alors au-delà de cette affaire quand même, bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail et date par date, parce que je ne voudrais pas qu'on s'embrouille non plus dans les questions techniques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour Facebook? Avant qu'on s'intéresse justement, est-ce qu'il faut reconstruire un nouveau modèle? Zuckerberg, il doit s'expliquer, il va s'expliquer, il doit sortir du bois. Il y aura un avant, un après, justement, cette affaire. On parlait tout à l'heure de moment Facebook. Isabelle Bordry.
Oui, je pense qu'il y a un vrai besoin de la part des équipes dirigeantes de Facebook d'expliquer ce qu'ils font, d'expliquer ce qui a été fait, déjà dans un premier temps. Ils ont été très maladroits, déjà sur ce premier élément. Maintenant, d'expliquer l'évolution l'évolution du, justement du traitement de la donnée. Mais quand vous travaillez ou discutez avec les équipes de Facebook, très rapidement, ils vous expliquent qu'on peut toucher en publicité sur Facebook les gens qui sont sur le point d'acheter un appartement, les gens dont on sait qu'il va y avoir un changement important dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils arrivent à prédire même les divorces en fonction d'un comportement. Donc, que ce soit d'une manière, ce qui était choquant là, c'est que la donnée est sortie de chez Facebook, mais je trouve que même par l'utilisation même de Facebook, les utilisateurs ne se rendent pas compte de ce qui peut être fait de leurs données. Donc je suis d'accord avec vous, il y a un vrai service qui est offert à l'utilisateur. L'utilisateur reste 5 heures par jour sur Facebook, ce qui prouve qu'il a besoin de Facebook. Maintenant, il y a une responsabilité de Zuckerberg et de l'ensemble des équipes d'avoir une éthique par rapport aux données qui sont effectivement données et proposées par les utilisateurs. Et cette éthique-là, aujourd'hui, il doit de la transparence.
On verra sous quelle forme. Juste, ça peut coûter cher à Facebook. On voit le titre là qui dévisse Frédéric Simotel, justement. Pour quelle raison ?
Ça peut coûter cher en bourse, on l'a déjà dit, hein, c'est 30-40 milliards déjà qui sont
envolés bon, hier.
Après, sur l'ensemble, si on regarde sur les derniers mois, ça reste quand même une valeur qui contente ses actionnaires.
Le titre dévisse, c'est quoi ? Parce que la législation pourrait se durcir, donc ce qui pourrait nuire à l'activité ciblée, c'est tout le business de Facebook qui pourrait être...
C'est tout ce que ça peut entraîner derrière, c'est-à-dire que Facebook, tout repose sur... C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre dans le même sac tous les GAFA. Apple, c'est dans d'autres domaines. Ils font des téléphones, ils ont du service, ils font du cloud, ils font tout ça. Google, pareil, ils ont Android, ils ont leur moteur de recherche, ils sont un peu régie publicitaire, ils ont plusieurs métiers. Facebook, c'est quand même bien axé sur le travail sur ces données, sur la publicité à partir de ces données. Donc, il y a pas mal de choses. Le métier quand même sur un gros axe. Quoi. Alors, après, il y a plein de branches, mais c'est quand même un gros axe. Donc ça peut coûter cher en image aussi. Ouais. On sait que Facebook souffre. Alors, il y a eu l'histoire des fake news. Il y a eu l'histoire là. On l'a dit il y a quelques semaines. Ça y est, les jeunes commencent à se détacher de Facebook. Ils vont plutôt vers Snapchat. Voilà.
Ça peut faire chuter le nombre d'utilisateurs.
Ça peut encore ralentir, c'est-à-dire les jeunes se disent tiens c'est marrant. Puis derrière peut-être qu'on va supposer que la réglementation est un peu trop légère, donc on va la renforcer. Si on la renforce, on va peut-être demander aux utilisateurs de déclarer j'accepte que mes données ou je n'accepte pas que mes données, ce qui remet en cause du
le coup, modèle quelque
le,
part
le modèle et du coup voilà, donc ça fait plein de petites choses qui s'ajoutent et qui font enfin de grosses choses qui s'ajoutent et qui peuvent transformer le modèle.
Un mot Édouard Filias, Isabelle Bordry.
Il faut que Facebook aille à Canossa. Ils doivent faire amende honorable. Et ça, c'est une priorité, d'autant plus qu'ils ont été extrêmement moralistes ces dernières années. Sheryl Sandberg nous a donné des leçons de féminisme à n'en plus finir. Mark Zuckerberg nous a expliqué comment il changeait le monde. Je pense que maintenant, il est temps de revenir à une logique, de passer d'une logique techno-béate à une logique techno-réaliste. C'est quoi le bénéfice pour moi, utilisateur, sur Facebook ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Parce qu'aujourd'hui, objectivement, j'y gagne beaucoup, c'est un média qui est intéressant, plaisant, mais j'y perds plus en fait. Mes data coûtent plus cher que le temps que j'y investis. Et ça, c'est un vrai sujet politique. Comment est-ce qu'on gère cette question de la valeur des données individuelles ?
Isabelle Bordry.
Ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'apparaissent des initiatives type Vero. C'est un peu un quant si on fait un comparatif entre le moteur de recherche Google et le fameux moteur de recherche français, européen, qui explique qu'il préserve complètement votre donnée individuelle. Et donc là, c'est pareil, il y a Vero qui est apparu aux États-Unis et qui est un premier réseau social qui s'engage à respecter vos données, mais qui vous fait payer. Et donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça transforme le modèle économique. Le modèle d'Internet depuis le début, depuis 15 ans, depuis 20 ans, est basé sur une gratuité.
Voilà, on ne transfère plus ces données gratuitement qui peuvent être utilisées ensuite parce que Facebook va les vendre donc à des partenaires.
Mais donc
c'est nous qui payons tout de suite.
Voilà, j'accepte, moi Isabelle, de payer un abonnement tous les mois pour effectivement avoir un service qui est le service qui me permet de rencontrer des gens et de
l'échange, etc.
Discuter.
Bien sûr. Mais vos données, elles ne sont pas véhiculées.
En fait, Internet, c'est un peu bâti sur un modèle comme la télévision, en fait. La télévision, sur une certaine tranche de télé, vous ne payez pas, ou vous payez une redevance dans certains cas, mais vous avez une information gratuite en l'échange d'un espace publicitaire. Ce qui change lorsque l'on est sur des médias collectifs, c'est que vous n'avez plus de journalistes. Et effectivement, le contenu est donné par les utilisateurs et donc peut prendre plein de formes très différentes. Et donc peut permettre à la pub d'être beaucoup plus ciblée que ce qu'on peut avoir dans des médias linéaires. Voilà, et donc c'est tout ce modèle-là de gratuité, de positionnement de la pub, de marketing one-to-one qui est apparu avec Internet il y a une vingtaine d'années et qui, je pense, aujourd'hui est très challengé.
Alors on verra dans un instant quel nouveau modèle on peut mettre en place. Juste, Arnaud Ponce, les ambitions politiques de Zuckerberg, il s'assoit dessus ou pas après cette affaire?
Je pense que ça va remettre en question, oui. Ouais. Parce que c'est facile de se projeter en se disant s'il est lui-même candidat, si ces data, ils utilisent à ses propres fins,
qui va les collecter pour
là,
lui.
Là, ça devient vraiment, c'est un film de science-fiction. Là.
Une sorte d'abus de bien social, mais en matière de data et en matière de données. Bon, on continue dans un instant. Oui, après l'engouement Facebook, est-ce le moment de la défiance, justement? Est-ce qu'on est dans le moment Facebook avec, cool, finalement plus cool, hein, c'est ce qu'on disait tout de suite. On retrouve les décodeurs de l'écho sur BFM Business. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
On va revenir évidemment sur l'affaire Facebook et quel nouveau modèle à mettre en place. Juste, Isabelle Bordry, puisqu'on a la chance de vous avoir, vous à la tête de Retency, donc spécialiste de l'analyse des données, spécialiste du retail. Vous venez souvent nous parler d'Amazon, ici même, sur ce plateau des décodeurs de l'écho. Amazon qui dépasse Google en bourse pour la première fois et qui devient la deuxième capitalisation boursière derrière Apple. Quel regard vous portez?
Je pense que c'est un vrai signe. Amazon, depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, est à la pointe de l'innovation. C'est-à-dire qu'on on posait vraiment Google comme étant le plus innovant des GAFA, le plus en pointe en termes de services. Et en fait, depuis 2 ans et demi, 3 ans, Amazon est en train de prendre le lead. En innovant, c'est eux qui ont lancé Alexa, notamment sur le marché américain.
Les assistants personnels.
C'est les assistants personnels qui sont le meilleur ami de plus de 25 millions de foyers. Ça va très très vite. Alexa va être lancé en Angleterre très prochainement en France. Et donc, ils arrivent aujourd'hui à créer un lien véritablement entre votre domicile, le digital, avec ces nouvelles interfaces qui sont les interfaces à la voix. Et donc, je pense que c'est des vraies étapes, des vraies ruptures dans les usages, tout comme on a découvert qu'il fallait cliquer sur des liens par association d'idées il y a 15 ans grâce à Internet. Là, maintenant, vous n'avez plus besoin de lire, plus besoin de cliquer, vous parlez et les produits que vous aimez arrivent chez vous une heure après. Donc,
c'est justice finalement ce qui se passe pour Amazon qui double
Absolument.
Google.
Je pense qu'ils sont à la pointe en termes d'innovation aujourd'hui et ils mènent le marché en termes de transformation des usages et de qualité des services.
Bon, alors on vient sur cette histoire de collecte de données faite de façon indue, donc au profit d'une entreprise proche de la campagne de Trump. Donc, Frédéric Simotel, au-delà de Facebook, est-ce que c'est un voile posé sur l'ensemble des boîtes qui collectent des données? Est-ce que les grands groupes finalement ne sont pas en train de connaître aussi des signes d'essoufflement? Est-ce que tout ça, on n'est pas aussi dans le moment, au-delà du moment Facebook, du moment les GAFA? Alors, peut-être pas tous les GAFA, la preuve, Amazon, puisqu'on en parlait tout de suite avec Isabelle, se porte plutôt bien et a le vent en poupe.
Tous les réseaux sociaux, ça fait reculer, on l'a vu depuis hier à la bourse, ça fait reculer plusieurs des valeurs tech, qui vont pas bien, certaines Twitter,
qui perdent au moment où on se parle 10%, voilà.
Alors c'est pas complètement inattendable, mais ça vient s'appuyer aussi dessus. Mais après, je pense qu'il y a pas mal. Nous en Europe, j'en mets un peu le débat en Europe, parce qu'en Europe on a ces règlements européens qui arrivent sur la protection des données personnelles. On a ce règlement sur le e-privacy, alors qui est matière à contestation.
Très controversé.
Et on voit quand même que.
Juste ce RGPD, pardon, parce que c'est vrai. On va en parler, c'est vrai, on le sait, les entreprises ne sont pas complètement prêtes à l'approche donc du 25 mai, les entreprises qui vont devoir revoir leur façon de collecter, de stocker, d'utiliser toutes sortes de données personnelles, que ce soit leurs salariés ou de leurs clients, justement, ils devront mettre ces entreprises un certain nombre de précautions. Nouvel usage de la data, collecte et usage beaucoup plus responsable. Bon, reste à savoir si elles seront prêtes. Oui, allez-y, continuez Frédéric.
Donc ça peut être un avantage pour les entreprises européennes d'avoir ce règlement qui est un règlement européen, qui n'est pas un règlement français.
Le contrôle finalement
de redonner cette sorte de confiance vis-à-vis des data, confiance, de créer des nouveaux services. Donc voilà, après... sur l'ensemble, pour revenir, oui, sur sur les réseaux sociaux, il va y avoir certainement un peu plus de questions posées. Est-ce que la réglementation américaine va commencer à se durcir un peu? On l'a déjà dit tout à l'heure. Donc, ça reste. Enfin, je pense que c'est ce qui va se passer forcément.
Alors, Adrien Badevant, vous sortez l'empire des données où vous expliquez quelque part, eh bien, que plus de data ont été récoltées cette année que depuis l'histoire de l'humanité. Bon. Les data ne sont qu'un outil, vous expliquez, à l'homme de décider de leur rôle. Oui, alors justement, quel rôle, hein, quel rôle est-ce qu'il faut réguler davantage, justement, ces GAFA dans leur collecte de données? Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est quoi la mesure à prendre? Qu'il faut accompagner l'innovation, il ne faut pas la brimer avec des lois qui seraient complètement inadéquates, mais il faut quand même protéger les libertés individuelles. Et en l'occurrence, avec le règlement européen RGPD du 25 mai prochain, ça peut être aussi un outil un peu de soft power à l'européenne, puisque d'une certaine manière, il y a un champ d'application extraterritorial assez fort, c'est-à-dire que les entreprises, même si elles ne sont pas européennes et qu'elles sont aux États-Unis, en Chine ou ailleurs...
Les gens du net,
si, par exemple, ils profilent ou s'ils vendent des prestations ou des services à des personnes qui sont au sein de l'Union européenne...
Ils devront se conformer au règlement.
Le règlement leur est applicable. Et ce règlement aura sans doute un champ d'application donc plus large et un niveau de sensibilisation bien plus important. Rappelons juste qu'il arrive en 2018, mais finalement en France, depuis 1978, ça fait 40 ans qu'on a la loi informatique et liberté, avec des principes qui sont plus ou moins les mêmes.
Similaires, d'accord.
Dans la grande logique, les principes consentement, collecte loyale, etc. C'est juste que maintenant, avec le règlement, on ne doit pas faire de... Vous êtes une entreprise, vous ne devez pas aller voir la CNIL à chaque fois à faire des formalités préalables. Vous avez une forme de documentation en interne que vous devez tenir. Et si vous ne vous conformez pas, en termes de sécurité informatique, en termes de façon dont vous collectez la donnée, vous la transférez en dehors de l'Union européenne, les sanctions peuvent être beaucoup plus grandes. Mais je pense qu'il ne faut pas voir ça uniquement d'un point de vue du prisme de la peur. Il faut voir au contraire comment le règlement européen, pour répondre à votre question, peut devenir un avantage compétitif.
Et un outil de souveraineté donc européenne, en l'occurrence. Ouais. C'est la fin d'une époque de dérive, justement. C'est un nouveau modèle. Est-ce que tout ce dont on est en train de se parler, depuis maintenant 30 minutes, au travers de cette affaire Facebook, qui est très importante, vous le disiez, c'est un énorme scandale. Tiens, Arnaud Ponce, qui est le délégué général de la Fondation Digital New Deal, ça va donner lieu donc à une surveillance accrue des réseaux sociaux, justement?
Oui, mécaniquement. En fait, c'est un moment important. On parlait de Snowden tout à l'heure, en 2013, où le grand public a compris que Internet, il ne fallait pas être naïf, on pouvait être potentiellement surveillé. Et puis là, il y a ce scandale qui est pour moi pas équivalent, mais presque, où on comprend que les données peuvent être utilisées à des fins politiques. Il va falloir qu'il y ait une régulation, et c'est vrai que l'Europe est plutôt en avance sur ce sujet-là. Sur les datas, mais il va falloir aussi que ces GAFA s'autorégulent. C'est aussi un enjeu important. Et c'est là où on revient sur la discussion de tout à l'heure, c'est qu'ils sont à la fois un média, donc ils doivent avoir des règles telles que des médias de déontologie, et puis ils se veulent aussi comme un État, mais ils commencent à avoir les problèmes d'un État, c'est-à-dire des problèmes de régulation, de services, d'égalité, voilà. D'éthique.
Et est-ce que ça va conduire, question que je vous pose à tous, quelque part, à revoir ce modèle très centralisé des GAFA? Très étatique, entre guillemets, part, pour reprendre votre allusion il y a un instant, Arnaud Ponce.
C'est pas une centralisée, c'est pas un web décentralisé, voilà. Les GAFA. Hein.
Exactement.
C'est pour ça que la blockchain va leur faire.
Et justement, vers un modèle décentralisé, justement, et sécurisé via la blockchain. Allez, Edouard Filias, Jean.
J'ai une conviction qui est à la fois celle de l'homme de l'art et une conviction politique, c'est que dans les années qui viennent, on va voir apparaître des Facebook locaux. C'est la solution logique. Et en fait, les empires tombent toujours à cause de leur marche. Là, c'est exactement ce qu'on observe en Europe. Ce modèle est né dans la Silicon Valley, il a prospéré très bien. Les États ne pourront plus longtemps accepter que les données de millions de leurs concitoyens soient tout simplement aspirées sur des serveurs étrangers.
Par d'autres, oui, bien sûr.
Et des données qui donnent la capacité de prédire les opinions publiques et les comportements de façon décisive pendant les décennies à venir. Donc je ne suis pas sûr que la plupart de nos hommes politiques ne réalisent pas qu'en fait les données qui ont déjà été captées sont un avantage économique et politique énorme de puissances étrangères. Parce que la NSA et la CIA branchent directement leurs tuyaux sur Facebook. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on connaît même les immeubles dans lesquels ils croisent leurs données. Donc, je pense qu'on va inéluctablement vers des solutions alternatives, locales. On verra apparaître une concurrence, peut-être politiquement protégée au départ, probablement, mais qui ensuite pourra prospérer, parce que le principe du réseau social et le principe du ciblage, à mon avis, est acquis.
Frédéric Sibotel.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on arrive dans ce monde de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est deux piliers, hein, c'est les algorithmes et de l'autre côté, c'est les data. Donc, on va avoir des data, on va en avoir de plus en plus. On a les voitures vont être connectées, nos maisons vont être connectées, nos vêtements vont être connectés. C'est tous ces ensembles de données qui, dans plusieurs cas, vont nous simplifier la vie. On sera bien content de les avoir, peuvent même sauver des vies dans la santé, même la voiture connectée, ça va nous permettre de simplifier quand même le transport. Et puis de l'autre, bien oui, il faudra cette éthique, il faudra faire attention un peu à l'utilisation de ces données. Et sur la partie algorithme, on voit commencer à arriver aussi des choses sur la transparence des algorithmes. On cherche aujourd'hui, le Sénat en France a demandé aujourd'hui les administrations utilisent des algorithmes. Votre taxe d'habitation, hop, c'est calculé selon un algorithme. Une indemnité pour un quotient familial, tout ça, c'est calculé selon un algorithme. Eh bien, aujourd'hui, le Sénat voudrait que tous ces algorithmes soient transparents, que l'on explique bien les critères. Donc un jour, si on vous dit, vous n'avez plus le droit à l'allocation familiale, ah bon, pourquoi ? Ah ben, on vous donne l'algorithme, on dit, voilà les critères. Et ça aussi, c'est des choses qui pourraient commencer à arriver.
Bon. Isabelle Bordry, Adrien Badevant.
Alors juste deux choses. Déjà, il y avait en début d'année, à l'arrivée du RGPD, beaucoup d'acteurs sur le français qui disaient encore une nouvelle norme européenne, encore une norme qui nous empêche de tourner en rond, de pouvoir faire du business comme on en fait aux États-Unis. Et je trouve que cette affaire Facebook hier remet un peu les pendules à l'heure. Et je trouve que l'Europe a justement, et le Parlement et le régulateur, eu une vraie vision de dire le marché ne va pouvoir véritablement se développer dans toutes ces innovations en respectant la confiance avec les utilisateurs et la transparence. Et l'autorégulation à l'américaine ne fonctionne finalement pas toujours aussi bien qu'on veut bien le croire, en fait. Donc ça, c'est un premier point. Sous cette tendance du RGPD bashing, on va dire, je trouve, est allé un peu trop vite ces derniers mois. Donc ça, c'est premier point. Deuxième point, ce qui arrive avec l'intelligence artificielle est assez particulier. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle fonctionne sur la base de neurones. Comment ça fonctionne ? Vous mettez des hypothèses au départ, les neurones et cette intelligence artificielle accaparent ces hypothèses pour après donner des résultats. Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et donc effectivement, on va peut-être se retrouver dans une situation où il faudra faire passer des permis de conduire aux voitures autonomes. Parce que ça sera très compliqué, voire impossible, de modifier le modèle. Et donc c'est tout l'enjeu du moment, c'est comment cette intelligence artificielle va être utilisée, parce qu'il n'y aura pas moyen de modifier le modèle une fois que ça sera lancé.
Allez, le mot de la fin à vous, l'avocat Adrien Badevant.
Ce ne sera pas qu'une question d'accès, parce qu'il y a les algorithmes, on peut y accéder, mais encore faut-il qu'on puisse les interroger, qu'ils soient intelligibles. Aujourd'hui, avec la loi pour la République numérique de Axel Lemaire, on peut déjà accéder à l'algorithme comme admission post-bac des algorithmes publics. Pour les algorithmes privés, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a le secret des affaires et le droit de la propriété intellectuelle qui peut être mis en balance et on peut refuser qu'on explique le fonctionnement de ces algorithmes-là pour pas dévoiler le cœur du business model des sociétés de demain.
On va y arriver à ce nouveau modèle, donc plus éthique, oui, tous.
Oui, suite de toute à cette manière, affaire,
cette affaire Facebook, elle est révélatrice.
Ouais. Absolument.
Bon, et souverain en tout cas. Je pense que c'est une affaire qui interpelle les États au moins autant que les citoyens.
Bon, très bien.
Ça montre que les données seront le contentieux de demain. Parce qu'il y a plein de...
Il faut donc inventer une intelligence artificielle qui soit éthique et transparente.
Merci à tous. Merci d'être venus. C'était passionnant. Merci Arnaud Ponce, délégué général de la Fondation Digital New Deal. Isabelle Bordry, présidente, fondatrice de Retency, spécialiste de l'analyse des données, spécialiste du retail également. Vous en rendez compte chaque fois qu'elle vient nous voir. Édouard Filias, fondateur de l'agence Jean, agence de communication, agence de veille également sur Internet, agence d'influence également. Frédéric Simotel, éditorialiste Altech de BFM Business, que vous retrouverez également ce week-end et qui recevra également Adrien Badevant pour son livre L'Empire des données. Merci à tous. Ce mercredi soir, on se retrouve avec les décodeurs de l'écho. On entendra Jérôme Powell, le nouveau patron de la Fed, à l'heure de sa première hausse des taux. Il y aura une émission donc ce mercredi soir. Voilà, je suis un petit peu perdu. Entre 19h et 20h sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.